la place de Daniel Loïsa, qui n'est pas avec nous, qui est de l'autre côté de l'océan. Mais rassurez-vous, je vais prendre la place de Daniel juste 3 minutes, car je n'ai pas ses compétences. Simplement, du coup, pour vous présenter nos intervenants ce soir, que vous avez déjà vu si vous êtes venus aux séances précédentes. C'est la 3e séance autour de Shakespeare, qui va être consacrée à la comédie. On aurait pu en faire beaucoup plus que 4. Hein. Je pense qu'on va être très frustrés quand ça va s'arrêter, parce qu'en fait, il y aurait tant et tant à faire encore. Donc, avec nous ce soir, alors là, je vais prendre mon petit papier parce que j'ai peur d'oublier des choses. Avec nous ce soir, Dominique Bois-Blanquet, donc, qui est au centre Dominique, qui est angliciste, grande spécialiste de Shakespeare, présidente de l'association française de... Ça y est, j'étais sûre, je me trompe. De la
Société française Shakespeare.
Qui va très bientôt publier un livre, Shakespeare et l'invention du droit, chez Classique Garnier. Je n'ai rien oublié, Dominique.
Non, c'est très bien.
À la droite de Dominique, Florence Nogrette, qui est donc professeure de littérature française et de théorie du théâtre. Et Françoise Nogrette qui vient, Florence Nogrette, pardon, qui vient de publier Le théâtre de Victor Hugo, donc grand spécialiste du mot de littérature française, et pas seulement, puisqu'elle est avec nous ce soir pour parler de Shakespeare.
Il reste les questions du livre de Hugo, William Shakespeare. Hein,
voilà, merci Florence de le préciser. Avec nous aussi ce soir, Jacques Bonafé pour lire les textes. Les textes que Jacques va lire ce soir sont traduits par Jean-Michel Desbras, ici présent. Et merci d'être avec nous. Jacques Bonafé, JBLLP, Jacques Bonafé lit la poésie sur France Culture dans une émission quotidienne à 16h depuis le mois de septembre. Et la semaine du 8, 9 et 10 avril, il lira précisément des sonnettes de Shakespeare.
Parce que c'est une semaine consacrée à Shakespeare sur France Culture.
Pour l'anniversaire.
Voilà. Ces 3 jours seront l'occasion de l'anniversaire de 400 de Shakespeare.
Et de lire des sonnettes.
8, 9, 10. Et donc, les sonnettes.
Le 71. Le 71, non?
Oui, je pense qu'on va faire une station sur le 71.
Jacques aura une autre actualité très prochainement, puisqu'il va prendre la Bastille, enfin prendre le théâtre de la Bastille.
Exact.
D'abord comme comédien dans un spectacle de Thiago Rodriguez, qui s'appelle Bovary, et aussi pour autre chose qu'il n'a pas voulu nous dévoiler.
Une occupation de la Bastille.
Voilà.
C'est-à-dire avec ce metteur en scène qui est directeur du Théâtre National de Lisbonne, on restera pendant 2 mois dans la Bastille. Voilà.
Je vous remercie, je leur laisse la parole.
Merci Marie-Hélène. Donc ce soir, on va parler des comédies. Si vous êtes venus avant, vous avez entendu donc des extraits des histoires, des tragédies, et nous terminerons le mois prochain avec une lecture qui sera consacrée au drame de Romanesque, c'est le nom qu'on utilise pour parler des pièces de la fin. Et on aura l'occasion d'en parler un petit peu en écho avec ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, les comédies ont eu assez mauvaise presse en France pendant longtemps, on ne s'en occupait pas beaucoup. Si vous entendez dire « c'est du Shakespeare », d'ailleurs, vous verrez qu'il s'agit en général d'une scène extrêmement sanglante, violente ou avec des intrigues politiques épouvantables, mais jamais une scène comique ou féerique. Alors ce soir, ce sera du Shakespeare, mais le Shakespeare des comédies. Alors, une des raisons pour lesquelles elles ont été assez peu populaires en France, c'est parce qu'elles étaient tellement différentes de ce à quoi on était habitué, qui était plutôt du style de la comédie qui est censée corriger les mœurs. Alors, dans les comédies de Shakespeare, il arrive qu'on corrige les mœurs, mais ça n'est pas le propos principal. Alors, il s'est malgré tout inspiré de schémas existants, et en particulier la première comédie, et la première dont on va parler, que Jacques connaît bien parce qu'il l'a jouée il y a quelque temps, c'est la comédie des erreurs. Alors, pour la comédie des erreurs, Shakespeare a pris un scénario on ne peut plus classique, puisque c'était la pièce de Plaute, les Ménechmes, qu'il a utilisé, mais pour ne pas faire simple, alors qu'il y a une paire de jumeaux dans la comédie de Plaute, lui, il en a rajouté une deuxième paire, ce qui fait que les confusions sont à leur maximum. Et chaque fois qu'on a l'occasion de se tromper de jumeaux, bien entendu, c'est le mauvais jumeau qui est là. Alors, ces deux jumeaux ont été séparés, et là, on va aborder d'autres thèmes qu'on retrouvera justement dans les comédies de la fin et qui vont faire la particularité de Shakespeare. Ces jumeaux ont été séparés par une tempête qui a coupé un bateau en deux, et une moitié de la famille, le père, un jumeau et son domestique, sont partis d'un côté, et l'autre moitié, la mère, qui a été perdue en mer, un autre jumeau et son domestique ont disparu, ont été séparés. Et dans cette pièce, ils vont se trouver réunis, ce qui fait que leur ressemblance va troubler tout le monde. Et comme par hasard, chaque fois qu'on a affaire à un jumeau, bien entendu, ce n'est pas celui qu'on croit. Alors il y en a un qui est marié, l'autre est célibataire. Celui qui est dans sa propre ville, personne ne le reconnaît, personne ne comprend ce qu'il fait puisque on le prend pour l'autre. Et celui qui est étranger, on va le couvrir de cadeaux, d'invitations, etc. Il ne comprend rien non plus, ce qui fait que l'un et l'autre vont craindre d'être devenus fous. Et ça va être un thème très important des comédies, justement, ce passage dans une période perturbée. Alors on part d'une situation, semble-t-il, équilibrée, parfois une situation oppressante d'ailleurs, avec une autorité qui peut être assez inquiétante, c'est le cas de la comédie des erreurs. On a un passage dans une zone extrêmement perturbée, avec toutes les confusions d'identité possibles, et puis ces confusions font circuler l'air, les forces vitales, et à la fin, les choses, comme on est dans une comédie, justement, au lieu de tourner à la catastrophe comme elles devraient, vont s'arranger presque miraculeusement, et un nouvel ordre va s'établir, moins oppressant, moins menaçant que le premier. Alors, dans le passage que Jacques va nous lire, c'est la belle-sœur d'un des deux jumeaux qui va lui faire la leçon gentiment parce que sa sœur, à elle, est malheureuse, son mari n'est pas très gentil avec elle. Mais la scène va être un malentendu total puisque, bien entendu, elle ne parle pas à son beau-frère comme elle le croit, elle parle à l'autre.
Si vous avez épousé ma sœur pour sa richesse, alors pour sa richesse, traitez-la plus gentiment. Ou si vous aimez d'ailleurs, faites-le furtivement. Cachez cet indigne amour à ses aveugles yeux, que ma sœur ne le lise pas dans les vôtres. Ne fais pas de ta langue l'avocat de ta honte. Un air tendre et des paroles aimables conviennent à la traîtrise. Costumez le vice en ambassadeur de vertu. Soyez loyal en apparence, même si votre cœur est pollué. Inculquez au vice le maintien d'un saint apôtre. Soyez faux en secret. Pourquoi faut-il qu'elle l'apprenne? Tel voleur est assez niais pour étaler sa honte. C'est un double manquement que de déserter votre lit et, à table, de le faire lire à votre femme sur votre visage. Oh, une turpitude bien déguisée reste aussi discrète qu'un bâtard. Une parole méchante à vous, les vilaines actions, hélas à nous autres, à nous pauvres femmes, faites croire seulement, car nous sommes pétris de crédulité, que vous nous aimez.
Florence, ah, que tu rêves.
Moi, je suis la Candide. Hein,
oui, j'allais dire, tu nous as annoncé, oui, c'est une Candide extrêmement chevronnée, mais vas-y.
Une spectatrice, hein, oui. Et qui s'étonne en lisant cette tirade du décalage entre, d'un côté, la vérité, la sincérité, la justesse du discours de Luciana, et puis de l'autre, la fausseté de la situation d'énonciation dans laquelle elle se trouve, que tu as souligné, Dominique. Alors, du coup, peut-être que ce qui nous fait rire aussi, c'est ça. D'un côté, on ne peut qu'être d'accord avec elle quand elle recommande de prendre soin de son épouse. Si l'amour s'érode, encore faut-il quand même lui donner le change, préserver sa femme en la payant de douces paroles mensongères. Mais en même temps, on a tendance à créditer le discours de Luciana de bonnes intentions et d'être d'accord avec elle. En même temps, on se dit qu'il y a deux objections quand même pour mettre en doute le bien fondé de son discours. Et la première objection, ce sont ses motivations. Est-ce qu'elle tiendrait le même discours, apparemment féministe, qui proteste contre la violence psychologique faite aux hommes, faite aux femmes par les hommes, est-ce qu'elle tiendrait le même discours s'il ne s'agissait pas de sa sœur, s'il ne s'agissait pas de défendre sa sœur, donc elle est quand même personnellement concernée. N'est-ce pas un discours ad hoc? Et puis aussi, c'est le bien fondé de son argumentation qu'on peut remettre en doute. Elle fait l'éloge de la tromperie verbale pour maquiller la tromperie du cœur. Est-ce bien féministe au fond que de présenter la femme comme un petit être faible à choyer, à protéger, à tromper, à berner, à manipuler avec, en la payant de paroles? Et puis, au fond, ce qu'elle fait, c'est l'éloge du pieux mensonge. Alors, le pieux mensonge, en bonne théologie chrétienne, est encore un mensonge. Il n'a pas à être, il n'est pas permis. Et puis, en situation, que vaut ce discours? Même si on lui fait crédit, elle parle à un homme qui n'est pas du tout coupable, qui la courtise, il en a tout à fait le droit puisqu'il est célibataire. Donc, au fond, le spectateur, il est renvoyé, à ses propres choix, à sa propre expérience, active ou passive, de la tromperie dans le couple, de la maltraitance du conjoint, de la dissimulation, du pieux mensonge. Et il peut d'autant plus sérieusement se poser ces questions qu'elles sont ici délestées de toute leur gravité.
Oui, alors toutes ces violences-là, ça n'est que le début, parce que ça va être encore mieux avec la pièce suivante dont on va parler, alors qu'on appelle habituellement la mégère apprivoisée, mais la nouvelle traduction a proposé un changement de direction et l'a intitulée « Le dressage de la mégère ».
De la rebelle.
De la rebelle, pardon, oui, c'est là-dessus, effectivement. Et alors là, on va entendre, alors le mensonge, on va y revenir parce qu'il joue un rôle très important dans la pièce et aussi un rôle très bénéfique. Mais la situation au début de la pièce, donc, c'est un bourgeois italien qui a deux filles, une qui est très douce, très charmante, dont on découvrira qu'en réalité c'est une fichue peste, et l'autre qui est la rebelle en question, extrêmement violente, qui terrorise tout le monde, et c'est l'aînée. Le père veut s'en débarrasser et il a annoncé à la ronde que si on veut épouser la cadette, il faut d'abord réussir à marier la première. Et donc, on va lui chercher un prétendant un peu fauché, parce que l'argent compte beaucoup dans ces comédies, dans les milieux où elles sont situées. Ce personnage, un peu un aventurier, Petruccio, va expliquer comment il va s'y prendre face à cette rebelle qui terrorise tous les prétendants de la sœur cadette.
Ainsi ai-je politiquement entamé mon règne, et j'espère l'achever victorieusement. Mon faucon femelle est maintenant affamé, le ventre plus que vide, n'a rien eu à manger, n'aura rien de la journée, la nuit passée, elle n'a pas dormi et ne dormira pas cette nuit. Comme avec la nourriture, dans la façon dont le lit a été fait, je trouverai une faute imaginaire et lancerai l'oreiller d'un côté, le traversin de l'autre, les couvertures par-ci, les draps par-là, oui, au milieu de ce charivari, le ferai comme si tout cela répondait aux soucis de son bien-être. Conclusion, elle ne fermera pas l'œil de la nuit et viendrait-elle à s'assoupir, le pesterait, braillerait et par mon vacarme, la tiendrait constamment éveillée. Bon moyen de tuer son épouse à force de gentillesse, et ainsi je mettrai un frein à son fol entêtement. Celui qui connaît une meilleure façon de dresser une rebelle, qu'il le dise, nous le montrer ses charités.
Donc sa promise, Katharina, va être extrêmement maltraitée. Alors Shakespeare est-il féministe ou pas? C'est une vaste question qu'on ne va pas résoudre aujourd'hui. En tout cas, il donne la parole aux femmes et il va la donner à Katharina, qui est donc la rebelle en question.
Plus je suis maltraitée, plus il se montre méchant. Pourquoi m'a-t-il épousée pour m'affamer? Les mendiants qui viennent à la porte chez mon père reçoivent l'aumône dès qu'ils la demandent, et sinon, ils trouvent ailleurs la charité. Mais moi, je n'ai jamais su implorer, ni jamais eu besoin de le faire. Je meurs de faim, je tombe de sommeil, tenu éveillé par des jurons, nourri de braillements. Et ce qui m'irrite plus que toutes ces privations, c'est qu'il fait cela au nom du parfait amour, comme pour dire que dormir ou manger me causerait maladie mortelle ou mort instantanée. Je t'en prie, va me chercher un plat, n'importe lequel, du moment que c'est bon pour la santé.
Alors il va lui chercher, enfin, il va lui aussi à son tour la payer de mots, en lui promettant des plaques tour à tour, il dénigre hein, parce qu'ils ne sont pas bons pour son régime, de sorte qu'au bout du compte, elle en est encore une fois privée. Alors ce passage, il fonctionne, ben, comme tout texte de théâtre, avec une double énonciation, c'est-à-dire d'un côté, le personnage parle à son interlocuteur, en l'occurrence ici, le domestique de son mari, et puis le texte, il nous est adressé à nous, et en tant qu'il nous est adressé à nous, il nous délivre un savoir psychologique. Puisque nous sommes évidemment en dehors de la situation de conflit dans laquelle elle se trouve. Et il me semble que le savoir psychologique que l'on retire des deux extraits qu'on a lus, c'est la manière dont fonctionne un pervers narcissique. C'est-à-dire, bon, d'abord, on voit bien que la pauvre Katharina, elle est dans une situation ici où elle demande pitié à son bourreau, parce que ce serviteur, dont on pourrait s'attendre à ce qu'il lui procure justement à manger, c'est un peu sa fonction, qu'il prenne soin d'elle, hein, le care, hein, le soin de l'autre, c'est une des fonctions dévolues au serviteur d'habitude. Là, tout au contraire, il est le bras armé de son maître, hein, qui l'imite. Il fonctionne par mimétisme, en observant comment son maître agit auprès de sa maîtresse. Et alors, on voit bien plusieurs fonctionnements du système du pervers narcissique avec sa proie. D'abord, rabaisser l'estime de soi de l'autre. Hein, c'est ce que fait ici le mari quand il traite sa femme moins bien qu'un mendiant, encore, hein, donc en la rabaissant à l'état d'animal, puisqu'il la compare à un faucon. Alors, il y a toute une métaphore ici de l'animal et de son dresseur. Donc, rabaisser l'estime de soi de l'autre, tyranniser l'autre au nom supérieur de son bien, que l'autre lui-même ignorerait. Donc, s'il la prive de nourriture, c'est pour son bien, c'est pour son bon régime. S'il la prive de sommeil, c'est pour qu'elle dorme dans de meilleures conditions, etc. Ça aussi, c'est une des méthodes du pervers narcissique, que de prétendre tyranniser l'autre pour son bien. Et utiliser un tiers comme complice de sa tyrannie, en lui montrant l'exemple. Et enfin, donc, cette loi terrible hein, que l'on connaît parfois quand on est tyrannisé, qui est de demander pitié à son bourreau, ce qui ne peut qu'exciter davantage son sadisme.
Alors on est dans une société, ce qui apparaît très bien dans les comédies de Shakespeare, qui est extrêmement dure pour les femmes. Alors plaide-t-il pour elles ou pas ? En tout cas, il montre ce qui apparaît. Dans la comédie précédente, justement, la comédie des erreurs, l'épouse mécontente est rendue coupable du fait que son couple marche mal parce que, lui dit la mère supérieure, qui était en fait la mère disparue des jumeaux, on l'apprendra après, lui dit une femme jalouse est la pire des catastrophes. Et tout au long des comédies de Shakespeare, on entend effectivement les parents inquiets dire « Attention, tais-toi, sinon tu ne trouveras jamais de mari ». On en retrouvera quelques-unes tout à l'heure. Et alors, dans cette société peu indulgente pour le sexe dit faible, le mariage est évidemment le socle. Il est une affaire qui occupe les différentes générations, les parents qui organisent les mariages, que les enfants acceptent plus ou moins bien. C'est la grande affaire des comédies. Et c'est aussi une source d'anxiété sans fin. Vous vous souvenez peut-être de Panurge qui se demande « faut-il se marier ?» et qui va aller interroger tous les oracles qui lui répondent tous « oui, mais si tu te maries, elle te battra, elle te ruinera, elle te fera cocu. » Et on retrouvera cette angoisse masculine dans nombre de comédies. On entend aussi donc du côté des femmes à quel point ça peut être inquiétant de passer de la tutelle souvent dure d'un père à celle d'un mari. Et la Mégère propose, alors d'une façon extrêmement paradoxale et choquante souvent pour les publics que nous sommes, une solution qui est justement le mensonge. Il y a une scène très crucial dans la comédie, au moment où ils partent en voyage pour assister au mariage de la jeune sœur, où Katharina veut à tout prix assister à ce mariage et elle est prête à accepter toutes les compromissions pour obtenir ce qu'elle veut. Et ils partent en plein jour, son mari lui dit « c'est la lune qui brille ». Elle lui dit « attends, c'est pas la lune, c'est le soleil, j'ai dit que c'était la lune. Est-ce que tu veux rentrer à la maison ?» Alors aussitôt, elle le reconnaît, oui, c'est le soleil qui brille, ou l'inverse, il croise un vieillard, jeune fille, si fraîche et si jolie, et donc elle entre dans tous les rôles, tous les masques que lui demande de tenir son mari, et ils arrivent de cette façon paradoxale, au fond, à faire ce qu'on fait au théâtre, surtout au théâtre comme on le pratiquait à Londres à l'époque, c'est-à-dire qu'on commence à jouer à 3 heures de l'après-midi, dans un théâtre à ciel ouvert, mais la scène se passe la nuit. Par exemple, Othello, comment est-ce qu'on fait que c'est la nuit? Eh bien, deux personnes passent en disant « oh là là, il fait nuit noire, on y voit goutte », éventuellement, ils ont une torche. Donc, cet art du théâtre de transformer la vérité par le langage, par les mots, par la convention surtout, on est d'accord pour dire « c'est le soleil » ou « c'est une jeune fille ». Et de cette façon, la mégère arrive à se faufiler et se tailler une place pas trop malheureuse en acceptant de jouer la comédie en public de l'épouse soumise. C'est un peu de cette façon que se négocie le dénouement. Mais alors, on va passer à un autre type de discours. Tu disais que les domestiques singent les maîtres et ils appliquent surtout les mêmes règles, les mêmes conventions, la même image de la société. Et dans une autre comédie que je ne vais pas vous raconter parce que l'intrigue est extrêmement compliquée et longue, de nouveau, il y a des confusions d'identité, des gens qui s'aiment et qui cessent de s'aimer. Et cette pièce-là, les deux gentilshommes de Vérone, eh bien, nous avons un domestique qui s'appelle Lance, qui non seulement essaye de suivre les bonnes manières de ses maîtres, mais aimerait bien que son chien ait un petit peu d'éducation aussi.
Quand un homme a un serviteur qui lui fait des chienneries, eh bien c'est dur. En voici un que j'ai élevé depuis que je l'ai connu, tout petit chiot, que j'ai sauvé de la noyade alors que 3 ou 4 de ses frères et sœurs encore aveugles y allaient. Je lui ai donné une éducation tel qu'on puisse dire exactement, voilà comment j'ai dû créer un chien. J'ai été chargé par mon maître de l'offrir en cadeau à Madame Sylvia, et à peine étais-je entré dans la salle à manger qu'il me saute sur son assiette et lui vole sa cuisse de chapon. Oh, c'est une chose affreuse quand un matin ne sait pas se tenir dans toutes les sociétés. Je voudrais en avoir un, pour ainsi dire, qui prendrait sur lui d'être vraiment un chien. D'être en quelque sorte un chien à tout faire. Si je n'avais pas eu la présence d'esprit, plus qu'il n'en a jamais eu, de prendre sur moi une faute qu'il avait commise, je crois tout bon qu'on l'aurait pendu pour ça. Aussi vrai que je suis en vie, il aurait souffert pour ça. Vous allez en juger. Le voilà qui va se fourrer dans la compagnie des 3 ou 4 gentilshommes de chiens sous la table du duc. Il avait eu là, que Dieu me garde, il avait eu là, à peine le temps de pisser que ça sentait dans toute la salle. À la porte, le chien, dit l'un. « Qu'est-ce que c'est que ce cabot ?» dit l'autre. « Qu'on le chasse d'ici à coups de fouet ?» dit le troisième. « Pendez-le, dit le duc. » Moi, à l'odeur qui m'était familière, j'ai reconnu que c'était crabe, et je m'en vais de ce pas voir l'individu chargé de fouetter les chiens. « L'ami, lui dis-je, vous avez l'intention de fouetter ce chien ?»« Ma foi, oui, dit-il. Vous lui faites grand tort, dis-je, parce que c'est moi qui fais la chose que vous savez. » Alors lui, sans autre tintouin, m'expulse de la pièce à coups de fouet. « Combien de maîtres feraient ça pour leurs serviteurs ?»
On comprend bien, là. On comprend bien en entendant cette scène pourquoi les comédies de Shakespeare ont mis plus de temps que les tragédies à être acceptées en France. Hein, parce que, bon, on en a déjà parlé un petit peu les fois précédentes, on les joue adaptées, hein, bien sûr, le plus souvent, au 19e siècle, à partir de la fin du 18e siècle, avec Ducis, hein, et puis à l'époque romantique, mais c'est plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle qu'on commencera à découvrir les comédies. Et encore, ce genre de scènes-là, elles sont évidemment, elles sont coupées. Hein, elles sont coupées, c'est pas admissible sur la scène française qu'on dise des choses comme lever la jambe ou uriner. Là, c'est pas du tout possible. Ça fait partie de ce que les critiques de l'époque, reprenant la critique de Voltaire, appellent les monstruosités, appellent l'énorme fumier, l'abominable bourbier, les turpitudes infâmes que l'on trouve dans Shakespeare et qu'on ne pourrait pas jouer sur les scènes françaises. C'est-à-dire, on peut parler de ce genre de choses dans le théâtre français du 18e ou du 19e siècle à la foire, là oui, où la scatologie est tout à fait admise. En revanche, il n'est pas du tout envisageable d'en parler sur les grandes scènes, c'est-à-dire les grands théâtres subventionnés, dont fait partie l'Odéon au 19e siècle, mais même les théâtres secondaires de quelque importance, comme la Porte Saint-Martin, par exemple. Donc ce sont des scènes que l'on supprime, alors qu'au fond, dans les comédies de Molière, on trouve parfois quelques allusions, pas toutes, et surtout dans le Malade imaginaire, mais dans le Malade imaginaire, il est bien fait allusion quand même à demi-mot, à la chaise percée d'Argan, ou bien à l'examen de ses productions corporelles diverses par ses médecins.
Et on a des pruneaux.
Oui, mais précisément, c'était aussi des passages dans Molière qui étaient censurés au 19e siècle. Puisqu'il me frappe dans cette scène, c'est la question qui se pose toujours à un metteur en scène qui doit représenter un animal vivant sur scène, de la solution scénographique qu'il trouve. Et là, bon, le simple jeu de scène de Jacques suffisait à rendre présent in absentia le chien. Bravo Jacques, hein. C'est une solution. Il y a aussi celle d'avoir un véritable animal sur scène qui rompt l'illusion, parce qu'on ne peut pas ne pas se demander comment l'animal a été dressé et s'il va obéir à son dresseur jusqu'au bout ou faire n'importe quoi, ou bien un acteur, une marionnette, une peluche, ce que sais-je, qui rompt l'illusion aussi, bien sûr, puisqu'on se demande par quel artifice de machinerie on en est arrivé là, mais qui permet aussi, on l'a vu par exemple avec le cheval dans Richard III, sur la scène juste à côté, dans la mise en scène de Thomas Joly, qui permet aussi de relancer l'imagination du spectateur, puisque finalement c'est aussi lui qui va animer l'objet chien ou l'objet cheval.
Langhoff avait mis des vraies vaches sur la scène, je me souviens, à Nanterre, pour, je crois que c'était Désir sous les ormes. Et justement, une des questions que je me posais, c'est comment fait-il pour les faire tenir tranquilles? Alors la solution, on m'a dit, après, dans les drogues. Alors il y a un autre élément qui faisait que les comédies de Shakespeare passaient assez difficilement. Non seulement, effectivement, il y avait ces passages un peu douteux, contraires au bon goût. Il y avait aussi des éléments fériques qui bousculaient aussi, évidemment, le rationalisme habituel. Et alors, une des comédies peut-être la plus brillante dans ce style, c'est Le Songe d'une nuit d'été. Alors, qui reprend un thème qu'on va retrouver dans nombre de comédies de Shakespeare, des parents oppressifs qui prétendent choisir eux-mêmes, puisque c'est une affaire familiale, le mariage, comme je disais tout à l'heure, c'est le socle de la société. Le père Capulet prétend choisir le mari de sa fille. Et à peu près à l'époque où Shakespeare écrit Roméo et Juliette, il écrit cette comédie où on va assister, alors non pas à un, mais à cinq mariages ou cinq histoires de couple, sans compter toutes les combinaisons plus ou moins légitimes qui vont se produire au cours de l'action. Et alors le songe se déroule dans plusieurs milieux. L'intrigue commence à la cour du duc Thésée, qui lui-même s'est marié d'une manière assez brutale, puisqu'il explique à sa femme, l'Amazone Hippolyte, et il le rappelle qu'il l'a conquise à la pointe de l'épée. Et on lui présente une cause, Égée, le père d'une jeune fille qui est aimée de Lysandre, ne veut pas entendre parler de ce gendre, et en a choisi un autre pour sa fille, et demande au duc d'exercer son droit paternel en disant « soit elle m'obéit, soit elle mourra ». Et le duc dit « bon, on peut peut-être temporiser, on peut peut-être se contenter de la mettre dans un couvent ». Et les jeunes gens s'enfuient dans la forêt, suivis par l'autre amoureux de la jeune fille et l'amoureuse de l'autre jeune homme, et ils se retrouvent sous le regard, sans le savoir, d'un univers parallèle, mais qui ressemble beaucoup à celui des humains, qui est le peuple des fées, qui est représenté par un elfe, Puck, et par un couple royal qui ressemble beaucoup au couple Thésée-Hippolyte. Il s'agit d'Oberon et de Titania. Mais alors Oberon et Titania donnent un mauvais exemple parce qu'ils s'entendent très mal. Et le désordre de leur ménage va se refléter non pas dans la société humaine, mais dans la nature sur laquelle ils sont censés régner. Alors, Jacques, vous nous lisez le passage où Titania se plaint justement de la conduite de son époux.
Voilà les inventions que forge la jalousie. Et jamais, depuis l'éclosion du milieu de l'été, nous ne nous sommes rencontrés par colline, vallon, forêt ou prairie, près d'une fontaine pierreuse ou d'un ruisseau semé de joncs, ou sur les sablons qui bordent la mer, pour danser nos rondes au son du vent sifflant, sans que par tes querelles tu n'aies troublé nos jeux. Aussi les vents qui soufflaient en vain pour nous sur leurs pipeaux, comme pour se venger, ont aspiré la mer de brume pestilentielle qui, retombant sur la terre, ont rendu les moindres petites rivières si orgueilleuses qu'elles ont débordé de leur lit. Et à travers ce trouble du climat, nous voyons changer les saisons. Les gelées à tête blanche s'abattent sur le tendre giron de la rose pourpre et sur le crâne chauve et glacé du vieil hiver, une couronne odorante de bourgeons d'été parfumés et, comme par dérision, posée. Le printemps, l'été, le fertile automne, l'hiver coléreux échangent leurs livrées habituelles et le monde, frappé de stupeur, ne les reconnaît plus à leur récolte et cette même engeance de malheur provient de notre discorde, de notre dissension, nous en sommes les parents et l'origine.
Moi, on est rassuré, on voit que le climat était déjà détraqué au XVIe siècle, ça nous rassure un petit peu.
C'est pas le réchauffement climatique,
non,
c'est
ça que tu veux dire. Ni la couche d'ozone, ni la fonte des glaces. Là, on a un très beau discours qui fait image avec cette personnification des désordres de la nature dans leur cause même, la mésentente au sein du couple. Et on a une véritable allégorie, c'est-à-dire avec à la fois personnification des deux principes, donc masculin et féminin, et puis de tous les éléments de la nature qui sont décrits comme des êtres. Par exemple, le crâne chauve et glacé du vieil hiver, le vieillard qui s'oppose, donc l'hiver comme un vieux, qui s'oppose à la couronne de bourgeons d'été parfumé, donc l'été représenté comme une jeune femme. Bon, ça c'est tout à fait... Un lieu commun de la poésie de cette époque-là, que de personnifier les saisons. Et ce que je trouve vraiment magnifique dans ce passage, c'est que toute une histoire est racontée, en quelques vers seulement, qui condensent en quelque sorte dans un petit microcosme poétique les forces déchaînées de la nature. Et donc, ça me fait un petit peu le même effet que la pensée de Pascal, où il dit que par sa pensée même, il est capable d'englober une nature qui, par ailleurs, est beaucoup plus forte que l'homme et peut le détruire. Et là, on a l'impression que Shakespeare lui-même, en quelques vers, est capable d'englober tout le cosmos. Et puis, ce que je trouve charmant aussi dans cette scène, c'est la représentation scénique de cette discorde par deux cortèges. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils traînent avec eux un monde entier de lutins qui eux-mêmes sont en quelque sorte la représentation de la présence d'une présence divine un peu panthéiste dans tous les éléments de la nature. Puis il y a aussi quelque chose d'assez poignant dans la véritable raison de leur discorde. Cet enfant,
oui, j'en ai pas parlé,
cet enfant qui appartient à Titania parce que c'est une de ses femmes, enfin une de ses fées, une de ces sectatrices,
oui,
qui est morte en couche, si on comprend,
oui,
bien, en lui donnant naissance, et puis Obéron qui veut récupérer cet enfant. Et ça, c'est assez mystérieux. Pour quelle raison veut-il récupérer cet enfant indien et on se demande ce que ça représente. Est-ce que c'est la force toute puissante d'un matriarcat par lequel les enfants sont aux femmes, fondamentalement et puis... Du coup, le spectateur, même si ce sont des personnages assez comiques, hein, et Obéron et Titania, a aussi un peu de pitié pour eux et se demande si la guerre existerait pour cet enfant qui n'est pas le leur, s'ils en avaient un.
Mais les personnages qui vont se retrouver dans la forêt sont livrés à ces forces de la, de la nature qu'effectivement ils ne maîtrisent pas, que Oberon et Puck, malgré leur pouvoir surnaturel, ne maîtrisent pas non plus tout à fait. Ils vont d'ailleurs commencer par mettre une épouvantable pagaille dans les affaires des humains en voulant réconcilier les jeunes couples. Il y a quatre jeunes gens, on pourrait penser, alors Jack shall have Jill, North shall go ill, tout ira bien, mais on commence par avoir justement une série de chassés croisés où au début deux hommes aiment la même jeune femme, puis s'en détournent et aiment tous les deux l'autre. Et ce qu'on voit au cours de la pièce, alors qu'il est rendu de manière bestiale, qui nous paraît comique, mais qu'il était probablement moins pour les spectateurs de Shakespeare, on va affubler un artisan d'une tête d'âne et éveiller chez Titania un désir lubrique tellement brutal qu'elle va se précipiter sur cet homme grotesque en lui déclarant son amour et va se sentir ensuite, quand elle comprendra à quel point elle a cédé justement, enfin, on ne nous donne pas le détail de ces échanges, la nuit s'abat sur cette scène-là, mais en tout cas, quand elle se réveille, son époux Oberon est là pour lui dire, mais regarde de quel être tu t'es éprise, et elle est tellement horrifiée de ce qu'elle a découvert de ses propres pulsions qu'elle lui cède tout de suite le garçon. Et alors, Oberon et Puck, c'est l'extrait suivant qu'on va lire, vont remettre de l'ordre dans ce petit microcosme dont tu parlais. Ils vont se réconcilier, donc du coup, la tempête et le reste, ça va s'apaiser. Ils vont reconstituer les couples de manière un peu artificielle. Et les jeunes gens qui se sont enfuis vers la forêt parce que ça leur paraissait un lieu de liberté où ils pourraient vivre leur amour, débarrassés de la tutelle des parents oppressants, vont se dépêcher, affolés par eux aussi, ce qu'ils ont découvert sur eux-mêmes, vont se dépêcher de retourner vers la ville, vers le lieu civilisé. C'est aussi un schéma qu'on retrouvera dans plusieurs des comédies. Et alors là, nous en sommes au moment où ils ont failli, alors qu'ils étaient amis, amoureux, amis eux aussi, les deux filles en sont venues aux mains, prêts à s'entretuer, bousculés par toutes les passions les plus brutales. Oberon et Puck les dispersent dans la nature, les endorment, et nous allons assister bientôt à leur réveil.
Je parle un tout petit peu plus haut. Tu vois que ces amants cherchent un lieu pour se battre. Dépêche-toi donc, Robin, d'obscurcir la nuit. Recouvre tout de suite le firmament étoilé d'un brouillard pesant, noir comme l'Achéron, et égare si bien ses rivaux irascibles qu'ils ne puissent plus se trouver l'un l'autre. Quand ils se réveilleront, toute cette dérision leur paraîtra un songe, une vaine vision, et ces amants regagneront Athènes dans une entente dont le terme ne finira qu'avec leur mort. Tandis que je t'emploierai dans cette affaire, j'irai trouver ma reine pour lui réclamer son petit indien, puis je délivrerai ses yeux ensorcelés de leur vision du monstre, et tout sera en paix. Puck.
C'est toi, Puck.
Seigneur des fées, il faut faire vite, car les rapides dragons de la nuit fendent les nuages à tire d'aile, et là-bas brille la messagère de l'aurore. À son approche, des cohortes de spectres errant ici et là regagnent les cimetières. Tous les esprits damnés qui ont leur sépulture au carrefour et sous les eaux ont déjà regagné leur couche grouillante de verre, de crainte que le jour ne contemple leur honte. À dessein, ils se sont exilés de la lumière, éternel compagnon de la nuit au front noir.
Mais nous sommes des esprits d'une autre sorte. J'ai souvent volatré avec la menthe du matin, et comme un forestier, je peux courir les bois jusqu'à ce que la porte de l'Orient, toute rouge de feu, s'ouvrant sur Neptune avec ses beaux rayons sacrés, change un jaune d'or en un jaune d'or ses vertes eaux salées.
Oui, comme pour toute allégorie, il y a deux niveaux de lecture de ce dialogue. Bon, d'un côté, on a une intrigue à laquelle on peut tout à fait croire, hein, la double motivation d'Oberon pour désabuser les victimes de la potion, c'est-à-dire rétablir l'amour de Lysandre pour Hermia et s'attirer, pour son propre compte, les bonnes grâces de Titania. Mais on a une allégorie grâce à un système métaphorique complexe, alors vraiment, là, une sorte de métaphore filée, de double métaphore filée. La nuit, le jour, le désordre, l'ordre, la forêt, la ville, le rêve, la veille, l'aveuglement, la clarté de la vision, la monstruosité, la normalité, l'infidélité, la fidélité. Et tout ça va ensemble. Donc apparemment, on pourrait penser que le domaine de la nuit, du désordre, de l'infidélité, de la monstruosité, de la sauvagerie, de la forêt, s'oppose au domaine du jour, de la veille, de la raison, de la clarté de la vision, de la normalité et de la fidélité. Mais en réalité, dans ce passage-là, comme dans toute la pièce, c'est un système d'opposition qui n'est en rien binaire, qui est en réalité dialectique, parce que, au fond, c'est parce que le désordre règne la nuit, c'est parce qu'on se perd dans la forêt, parce qu'on y rêve, parce qu'on y est aveuglé, parce que des désirs monstrueux s'y expriment, et parce qu'on s'y laisse aller à des fantasmes d'infidélité, ce qui est le cas pour, finalement, c'est ce que symbolise l'attraction de l'attirance de Titania pour Bottom. C'est à cause de tout cela, à cause de tous ces désordres de la nuit, que l'on peut mener le jour une vie normale, avec une sorte de science de l'inconscient, de science de la fonction du rêve. Et d'ailleurs, Oberon se revendique comme cet être de l'entre-deux. Dans la dernière, dans sa dernière tirade que nous a lue Jacques, il n'est pas un esprit de la nuit, comme les spectres, hein, comme ses compagnons de la nuit, comme les esprits damnés. Non, lui, il est, dit-il, un esprit d'une autre sorte. C'est-à-dire que lui, il hante le passage entre la nuit et le jour. Hein, il habite l'heure bleue, en quelque sorte, hein, ou le crépuscule, ou l'aurore, ce qu'il appelle la porte de l'Orient, toute rouge de feu. Et il peut vivre, il vit d'ailleurs dans ce passage même. Donc, il m'a semblé, en lisant ce passage, que Oberon, ces deux passages, que Oberon et Titania, en quelque sorte, pouvaient symboliser la reviviscence du jour par la nuit.
C'est une très belle définition de la pièce. Il y a effectivement derrière eux ces esprits encore plus inquiétants et peut-être plus puissants qui font partie justement de cette vie nocturne. Et puis il y a un autre aspect de la pièce, c'est qu'il y a également dans la forêt une troupe d'artisans. Donc ce personnage de Bottom était en train de répéter, alors l'histoire très courte et très tragique, enfin non, réjouissance très tragique, l'histoire de Pyram et Thisbé. Et Pyram et Thisbé vont jouer, alors pour la plus grande joie, parce qu'ils sont un peu lourds de la cour, qui vont les trouver extrêmement comiques, ils vont jouer une histoire tragique qui est en fait le miroir de ce qui aurait pu arriver aux jeunes gens que leurs parents empêchent de suivre le cours de leur élan amoureux, eux sentir. Et alors, au réveil, Hippolyte se dit troublé par ce qu'ils ont raconté, et Thésée, le duc, le rationaliste, dit « oui, mais tout ça, ce sont des fantaisies », alors que nous venons d'assister à tout cela. Nous pensons, si nous entrons dans la convention de la pièce, ça n'était pas du tout un rêve. On a vu ce qui s'est vraiment passé, et lui balaye tout ça en disant « mais non, tout ça, ce sont des rêveries, des fantaisies. Le fou, l'amant, le poète sont tissés d'imagination et inventent ces histoires. » Et la comédie, enfin l'histoire tragique, la comédie tragique de Pyram et Thisbé lui revient comme un démenti dont il n'a évidemment pas conscience. Alors cette fuite hors du monde civilisé, on va la vivre sous un autre aspect dans Les peines d'amour perdues, où là c'est un groupe de jeunes gens qui décident de s'isoler du monde pour étudier et fuir la société des femmes, qui sont évidemment des trublions. Et donc, ils décident qu'ils vont vivre extrêmement sobrement, austèrement, seuls, en étudiant tout le jour et une bonne partie de la nuit. À peine ont-ils fait ce serment qu'arrivent quatre jeunes femmes qu'ils ne peuvent pas ignorer totalement parce que l'une d'entre elles est la fille du roi de France.
En plus, voilà.
En plus. Et donc, ces jeunes gens vont d'abord essayer de se tenir à distance, et la distance va durer le début de la pièce. Ensuite, alors, le plus disert, mais aussi celui qui était le plus réticent à s'isoler comme cela du monde et de la société féminine, Beroun, va tomber amoureux, évidemment, d'une des quatre jeunes femmes.
En vérité, me voici amoureux. Moi, le fouet de l'amour,
le censeur des soupirs changeants, le critique, non, le gardien de nuit, le gendarme. Un pédant plus arrogant qu'aucun mortel contre l'enfant, aux yeux bandés, enfant aveugle, géniard capricieux, ce seigneur junior, ce nain géant, Sir Cupidon. Régent des rimes d'amour, seigneur des bras croisés, souverain consacré des soupirs et des gémissements, maître des musards et des malcontents, terrible prince des jupons, roi des braguettes, empereur absolu, général en chef des flagrants délits. Oh, 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 mon petit cœur. Faut-il que je sois son caporal sur le champ de bataille et que je porte ses couleurs comme le cerceau d'un jongleur? Quoi? J'aime, je supplie, je cherche une épouse. Une femme qui est comme une horloge allemande, sans cesse à réparer, toujours déréglée, jamais à l'heure. Une montre qui ne montre l'heure exacte que si on la surveille. Que dis-je? Ah, je me parjure! Et c'est le pire de tout, et des trois, j'aime la pire de toutes, une coquette blafarde aux sourcils de velours, avec deux boules de pois figées dans la figure à la place des yeux. Une fille, par Dieu, qui ferait la chose quand même Argus serait son eunuque et son garde. Et je soupire pour elle, je veille pour elle, je prie pour elle. Que, allons, c'est un fléau que Cupidon m'inflige pour avoir négligé sa toute pressante, redoutable pente puissance. Eh bien, je vais aimer, écrire, soupirer, prier, supplier et gémir. Les hommes sont faits pour aimer, certains les dames et d'autres les souillons.
Mais c'est un fléau que Cupidon lui inflige. Alors là, on a le motif bien connu, hein, le motif de l'amour vainqueur et le motif de l'amour qui se venge de celui qui a cru pouvoir le défier. Alors on connaît ça au théâtre, c'est un ressort dramatique puissant, puisqu'on le trouve dans sa version tragique avec Phèdre, où Vénus se venge non seulement de Phèdre, hein, puisqu'elle est tout entière à sa proie attachée, mais aussi d'Hippolyte, hein, qui avait pensé pouvoir échapper aux lois de l'amour. Or, il n'y échappe ni en tant qu'il est aimé par Phèdre, ni en tant qu'il va finalement lui aussi aimer Arisie. C'est un ressort que l'on trouve aussi dans Le Triomphe de l'amour de Marivaux, où la princesse Léonide déguisée en homme réussit à séduire tout le monde dans un lieu à l'écart, non seulement le jeune homme qui est amoureux d'elle, mais aussi deux philosophes, le frère et la sœur, qui avaient juré, eux aussi, comme nos personnages de Peine d'amour perdu, ne jamais succomber à l'amour. Et ici, on a une version comique. Alors, une version comique qui s'alimente de toute une rhétorique, c'est cette rhétorique qui nous a fait rire, et dont je peux peut-être, en cuistre que je suis, puisque j'ai été recrutée pour ça, repérer quelques motifs. Bon, l'anaphore de le avec moi, le fouet de l'amour, le censeur des soupirs, le critique, non, le gardien de nuit, le gendarme, puis l'allégorie, alors tout à fait traditionnelle, de Cupidon aux yeux bandés. Ensuite, des oxymores qui disent, c'est-à-dire cette figure de style qui associe un substantif et un épithète, donc ils sont associés syntaxiquement, mais du point de vue du sens, ils sont parfaitement incompatibles, comme le seigneur junior, le nain géant. Les métaphores en cascade de la royauté de la puissance, régent, seigneur, souverain, maître, prince, roi, empereur, général, mais associés à des compléments du nom qui, eux, ne disent pas la puissance, mais au contraire l'oisiveté, le loisir ou la faiblesse, hein, puisque c'est maître des musards, prince des jupons, roi des braguettes, hein, empereur des flagrants délits, etc. Ensuite, on a cet éloge paradoxal de la femme aimée en horloge allemande avec cette comparaison. Et puis, enfin, encore une autre figure de style, le contreblason, c'est-à-dire le portrait, élément du corps par élément du corps ou élément du visage par élément du visage, qui, dans la rhétorique précieuse, est censé être louangeur et qui, ici, est, donc c'est le blason, et qui, ici, au contraire, met en évidence la laideur de cette femme. Blafarde, sourcils de velours, boule de pois à la place des yeux. De sorte qu'au bout du compte, on a toute cette rhétorique de la protestation contre l'amour, mais une rhétorique tellement éloquente que le spectateur ne peut que se réjouir de la défaite de Beyrand, que l'éloquence qu'il met à décrire son ennemi, l'amour, finalement, ne peut qu'entériner.
Alors effectivement, les quatre jeunes gens vont être bien punis de leur outrecuidance. Les quatre femmes vont se moquer d'eux, les faire danser, leur faire croire à diverses ruses qu'elles ont organisées. Là aussi, le scénario est assez complexe avec des figures chorégraphiques d'échange. Compliqué encore par le fait qu'il y a une intrigue secondaire avec des personnages moins aristocratiques qu'eux, qui sont extrêmement comiques et qui vont eux aussi essayer de jouer une pièce de théâtre. Et les quatre jeunes gens qui avaient commencé par donc tracer une image extrêmement négative des femmes vont ensuite les idéaliser comme des déesses, tu parlais de contre-blason, et se heurter justement à ces femmes qui vont leur dire que non, elles ne sont ni des créatures monstrueuses et démoniaques, ni des déesses, qu'elles marchent sur le sol, mais la pièce ne se terminera pas comme une comédie parce que arrive de l'extérieur la nouvelle de la mort du roi. C'est un élément dont on parlera tout à l'heure, le fait que la mort est très présente dans les comédies, comme une menace souvent. Un des personnages risque sa vie, il est sauvé puisque les choses s'arrangent, mais cette fois-ci, c'est la mort du roi de France qu'on annonce à la fin. Et du coup, tous les projets d'union, tous les couples qui étaient en train de se former, devront attendre optimistement un an, peut-être plus longtemps ou jamais, pour pouvoir se rejoindre. Alors, dans la pièce dont on va parler maintenant, La Nuit des Rois, où il n'y a aucun roi, il s'agit de l'Épiphanie, la 12e nuit après Noël, dont on pensait que c'était une période de fête, évidemment, mais période au cours desquelles une autorité extérieure se substituait à l'autorité habituelle. C'est un petit peu comme un temps de carnaval où Lord of Misrule va sembler présider aux événements. Il n'y a absolument pas de fête de Noël dans la pièce, c'est simplement une indication sur ce qui va se passer. Une situation qui n'est pas celle d'une autorité opprimante, mais d'une autorité un peu inerte, d'une société qui semble figée, d'un duc qui adore la musique et demande qu'on lui en joue jusqu'à satiété, qui est amoureux d'une femme qu'il ignore et qui est en grand deuil. Et arrive une jeune femme, Viola, qui a perdu son frère, jumeau. C'est un thème qu'on va retrouver, qu'on a vu donc au début dans la comédie des erreurs, mais qui joue un rôle important dans les comédies. Et elle va, se créer un chemin sur ce rivage où elle débarque sans amis, sans personne, se déguiser en jeune homme, en eunuque, dit-elle, et va se retrouver à la cour de ce duc qu'il envoie en ambassade auprès de la femme qu'il aime et qui refuse de répondre à son amour.
Que veut donc cette dame ?
Ça, c'est Viola qui parle, pardon. C'est la jeune fille déguisée en jeune homme. Après avoir eu l'entretien avec la dame en question, oui, qui s'appelle Olivia, j'aurais dû le préciser.
Que veut donc cette dame ? Veuille le sort que mon apparence ne l'ait pas charmée. Elle m'a beaucoup dévisagé, à vrai dire tellement qu'il me sembla que ses yeux égaraient sa langue, car elle parlait par saccades distraitement. Elle-même, c'est certain. La ruse de sa passion m'invite par ce messager acariâtre. Pauvre dame, elle ferait mieux d'aimer un rêve, déguisement. Je vois que tu es perfide, que le fourbe démon exploite à fond, comme il est facile pour un bel enjôleur de graver son empreinte dans le cœur de cire d'une femme. Hélas, c'est notre fragilité qui en est la cause, pas nous. Car tels nous fûmes créés, tels nous sommes. Comment ceci va-t-il tourner ? Mon maître l'aime chèrement, et moi, pauvre monstre, je suis tout aussi folle de lui. Tandis qu'elle, dans sa méprise, semble m'idolâtrer, que va-t-il advenir de tout cela ? En tant que je suis homme, mon amour pour mon maître est voué au désespoir, et en tant que je suis femme, alors hélas, quel vain soupir exhalera la pauvre Olivia, ô temps
C'est à toi, non à moi, de démêler tout ça, car c'est un nœud trop dur à dénouer pour moi.
C'est un nœud trop dur à dénouer pour moi. Alors, c'est un nœud pour elle, c'est une complication qu'elle n'avait pas du tout prévue, mais ce terme de nœud au théâtre désigne le moment de l'intrigue où la situation devient difficile et devra être dénouée au dénouement. Dans le schéma du bel animal aristotélicien, on a d'abord l'exposition, puis le nœud, et là nous y sommes, les péripéties et le dénouement. Et là, c'est le rôle de ce monologue, parce que on n'a pas encore parlé du fait que nous choisissons principalement des monologues, hein, qui ont des fonctions diverses. Et là, en l'occurrence, la fonction de ce monologue, c'est de poser le nœud, d'exprimer, de déployer le nœud. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux destinataires du texte, puisque, comme toujours, ces deux destinataires dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire celui à qui parle le personnage et puis le spectateur, ils n'apportent pas la même réponse à la question que pose ici Viola, comment cela va-t-il tourner ? Le premier destinataire, dans le cas d'un destinataire dans un monologue, c'est le personnage lui-même. Le personnage se parle à lui-même, il délibère, hein, ou il se plaint. Enfin, il tient un discours dont il est à la fois l'émetteur et le récepteur. De son point de vue, elle, évidemment, on comprend bien, en se travestissant et en déployant avec Olivia, c'est le nom de la dame, une rhétorique galante, ce qu'elle a fait lors de l'entretien, elle s'est elle-même enferrée dans une situation inextricable. Et qu'elle exprime, on est là dans une situation de pastorale, c'est-à-dire que elle aime le duc, hein, au premier regard, qui aime Olivia, qui, à son tour, aime Viola, pour le moment. Mais le spectateur, lui, n'est pas dans la même position que Viola. Lui, il est dans une position d'ironie dramatique, il en sait plus. Et il en sait plus parce que dans la scène qui précède, il y a un contre-champ. On voit dans une autre partie de l'île débarquer sur l'île le frère jumeau de Viola, qui lui ressemble qui n'est pas mort, hein, alors qu'elle le croit mort, et qui lui aussi la croit morte. Hein. Et donc le spectateur, qui quand même est habitué à ce genre de situation, puisque ce sont des situations de théâtre topiques que celles des jumeaux qui se retrouvent à la fin, se doute bien que la situation va s'arranger à la fin. Et bon, je ne ruine pas cette fin, mais on comprend tout de suite comment arranger le problème, hein, parce que le problème à trois ne peut pas se résoudre, mais à quatre, hein, deux hommes, deux femmes, va pouvoir se résoudre très facilement. Et donc, sachant à peu près comment va se dénouer le nœud, le spectateur se demande uniquement au prix de quelle péripétie il va pouvoir se dénouer. Et son intérêt est donc entretenu de deux manières. D'abord, du point de vue de la dramaturgie, il attend les quiproquos et les méprises qui ne vont pas manquer dans cette comédie des erreurs aussi. Et du point de vue émotionnel, il va pouvoir, sans crainte, suivre les méandres amoureux des personnages et reconnaître pour son propre compte, en se mettant à la place de Viola, les dangers qu'il y a à faire ce qu'elle vient de faire, c'est-à-dire badiner avec l'amour.
Alors effectivement, nous sommes dans la position privilégiée où nous n'avons pas à souffrir de les voir souffrir. C'est ce que dit Puck d'ailleurs dans Le Songe, en voyant les jeunes gens s'entre-déchirer, se trahir, s'abandonner. Il va dire qu'est-ce qu'ils sont distrayants, c'est mortel. Et là, donc nous allons assister aux tourments qui vont être réels parce que Viola va être menacée par ceux qu'on croit, on la prend pour un rival. Le duc va croire qu'elle le trahit, ne tombe pas amoureux d'elle parce qu'il croit que c'est un garçon, mais on tombe amoureux quand même. Le déguisement, évidemment, et ça c'est une convention importante du théâtre élisabétain, c'est qu'un déguisement n'est pas reconnaissable. Et sur cette convention tourne un certain nombre de pièces. Tu parlais des jumeaux, alors effectivement on est rassuré parce qu'on se dit chacun aura sa chacune, il y a ce qu'il faut. Et je pensais dans les jumeaux vénitiens de Goldoni, je me suis demandé pendant toute la pièce quand je l'ai vue, parce que je ne l'avais pas lue, comment ça allait se résoudre, parce que justement il manque quelqu'un. Et je vous laisse, si vous ne connaissez pas la pièce, découvrir comment Goldoni a retourné cette situation à laquelle on est tellement habitué que justement on cherche l'élément manquant. Alors ce déguisement, qui semble un obstacle au sentiment amoureux, on va le retrouver dans une autre comédie, comme il vous plaira, où, alors là, l'autorité ducale est extrêmement menaçante. Le duc en exercice a été banni par son frère cadet, qui a pris sa place, et qui maintenant menace la fille de ce duc, Rosalinde, qui est si amie avec sa cousine qu'elles vont toutes les deux s'enfuir dans la forêt pour échapper à la menace du duc usurpateur. Elles ont eu le temps de rencontrer des jeunes gens, dont un va tomber amoureux de Rosalinde au premier regard, et partir lui aussi dans la forêt, non pas à sa poursuite, mais parce qu'il est lui aussi victime d'un frère injuste et dangereux. Et ils vont se croiser dans la forêt. Rosalinde prendra un déguisement masculin pour se donner une assurance contre les dangers de la forêt et va se recréer une petite société dans cette forêt qui semble relativement accueillante. Ils vont croiser, alors le duc banni a reconstitué une petite cour où on observe des usages extrêmement courtois, et il y a un personnage. J'aurais dû préciser avant que le messager à Cariatre dont on a parlé tout à l'heure s'appelle Malvolio dans La Nuit des Rois. Et ce messager à Cariatre est un prototype du malcontent, celui qui voit d'un mauvais œil les émotions des autres, leurs plaisirs. C'est un rabat-joie, c'est un puritain, et il va devenir la cible comique d'un certain nombre de personnages. Alors on a un autre malcontent, plus sophistiqué, dans « Comme il vous plaira », Jacques le mélancolique, qui observe alors d'un œil critique tout ce qui se passe sous ses yeux, trouve les amoureux complètement ridicules, trouve les usages de la petite cour en exil ridicules également, estime que ce sont des oppresseurs au même titre que ceux auxquels ils ont échappé, que les serfs, le peuple légitime de la forêt, est maltraité par eux, et à chaque moment de la pièce où les autres se distraient, s'amusent, s'éprennent les uns des autres, il observe, il critique et il résume sa philosophie assez sombre dans un passage extrêmement célèbre où il va raconter la vie de l'homme qui se déroule en cet âge.
Le monde entier est un théâtre. Et tous, hommes et femmes, n'y sont que des acteurs. Ils ont leurs sorties, leurs entrées, et chacun dans sa vie a plusieurs rôles à jouer, dans un drame en sept âges. D'abord le nouveau-né vagissant et bavant dans les bras de nourrice, puis l'écolier géniard avec son cartable et son visage frais du matin qui, comme un escargot, se traîne à regret à l'école, et puis l'amoureux, soupir de forge et balade dolente sur les sourcils de sa maîtresse. Puis le soldat, plein de jurons étranges, poilu comme la panthère, jaloux de son honneur, violent et prompt à la querelle, recherchant la bulle d'air de la gloire dans la gueule même du canon. Et puis le juge de paix, beau ventre rond, doublé de chapon fin, œil sévère et barbe bien taillée, plein d'augustes dictons d'exemples rebattus. Et c'est ainsi qu'il joue son rôle. Le sixième âge tourne au pantalon décharné, en pantoufles, lunettes sur le nez, bourse au côté, les hautes choses de sa jeunesse bien conservées sont trop larges d'un monde pour ses jarrets amaigris, et sa grosse voix d'homme retournant au fossé de l'enfance a le son de la flûte et du sifflet. Le tout dernier tableau qui clôt cette histoire étrange et mouvementée, c'est la seconde enfance et la mémoire absente, sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien.
Mais on est saisi.
Tout à l'heure, je rajouterai un petit mot. Je désannonce.
Oui, on a eu des choix très difficiles à faire. Et il y a un autre passage qu'on a été obligé de sacrifier.
Mais j'ai compris pourquoi.
Florence. On est saisi par la combinaison de deux motifs qu'on reconnaît, le motif du théâtre du monde et le motif des âges de la vie. Alors, ce motif de la vie comme un théâtre, qui est l'un des arguments de la pensée morale chrétienne du memento mori, souviens-toi que tu dois mourir. On le trouve ailleurs chez Shakespeare, bon, à la fin de Macbeth. Vous vous souvenez quand Macbeth apprend la mort de Lady Macbeth avec cette métaphore de l'homme comme un acteur qui joue son rôle sur les planches, qui débite son rôle, puis qui sort et qu'on n'entend plus. Et on le trouvera quelques décennies plus tard sous la plume de Bossuet dans son serment sur la mort, hein, dont je vous cite un petit extrait. « Je ne suis rien. Un si petit intervalle n'est pas capable de me distinguer du néant. On ne m'a envoyé que pour faire nombre. Encore n'avait-on que faire de moi. Et la pièce n'aurait pas moins été jouée quand je serais demeurée derrière le théâtre. » Alors, cette théorie de la vie comme un théâtre où on a un rôle à jouer qui n'a finalement pas grande importance et que quelqu'un d'autre pourrait jouer à notre place, Shakespeare la combine avec une autre théorie, celle des âges de la vie, alors qui dans l'iconographie donne lieu à certains tableaux baroques tout à fait terribles où on voit l'enfant, la femme et la vieillarde. Ça correspond, là on a sept âges, comme dans la religion et la société romaine, on s'imaginait que se succédaient l'infantia, la pueritia, donc l'âge de l'enfant, l'adolescentia, la juventus, donc l'âge du jeune homme, de l'homme jeune, disons, venait après les senioresses, plus âgées mais encore en bonne forme, et puis les vieillards, sénex, le dernier âge étant la mort. Alors là, c'est pas exactement la même chose, puisque le dernier âge, c'est la très grande vieillesse, mais on voit bien comment les deux motifs se combinent, puisque Shakespeare reprend chacun de ces âges et il attribue à chacun de ces âges un rôle qui se caractérise par un physique, un costume, une action caractérisante, et un discours. Alors, les quatre éléments, qui sont les quatre éléments par lesquels un personnage peut être défini, ne se retrouvent pas à chaque fois, mais presque. Pour le nouveau-né, on a une action, bavant, et un discours, vagissant. Alors, ils ont toujours un discours, en tout cas, ça c'est sûr. Pour l'écolier, il a un physique, un visage frais, un costume ou des accessoires, le cartable, une action, il lambine, et un discours, il geint. L'amoureux a une action, il aime, et un discours, il soupire. Le soldat a un physique, il est poilu. Une action, il est querelleur. Un discours, il jure. Le juge de paix, donc là ça correspond à senior chez les Romains, a un physique, beau ventre rond, œil sévère, barbe bien taillée. Une action, il dit la loi. Et un discours, auguste dicton, exemple rebattu. Péror, en somme. Le vieil homme, pantalon, donc type de la Commedia dell'arte, a un physique, décharné, les jarrets amaigris, un costume, en pantoufles, lunettes sur le nez, bourse au côté, c'est plutôt des accessoires qu'un costume, une action, il fait le joli cœur, ce qui est l'action de pantalon dans la Commedia dell'arte, et un discours, grosse voix d'homme, retournant au fossé de l'enfance, flûte et sifflet. Enfin, le très grand âge, alors, il n'a même plus de nom, alors que tous les autres en avaient un. Nouveau-né, écolier, amoureux, soldat, juge de paix, pantalon. Mais pour le très grand âge, il n'y a même plus de nom. C'est l'innommable. La seconde enfance et la mémoire absente. Et il n'y a plus qu'un physique. Sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien. Mais plus ni costume, ni action, ni discours. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi tous ces âges de la vie sont tous ridicules. Parce que et le ridicule ressort bien de la manière dont ils parlent. Ils parlent tous d'une manière qui est tout à fait vaine. Vagir, geindre, soupirer, jurer, pérorer, siffler. On peut se demander pourquoi tous ces rôles sont ridicules. Eh bien, c'est pour renvoyer le spectateur à sa vanité. On est là dans le grand thème des vanités. Le spectateur ne peut sans honte s'identifier à aucun des types et en même temps, il ne peut pas ne pas se demander auquel de ces types il correspond en fonction de l'âge de la vie dans lequel il est. Moi, par exemple, c'est senior, beau ventre rond, pas trop, mais un peu quand même, œil sévère, et qui passe son temps à pérorer.
Alors ça, c'est la vision de Jacques qui est un...
J'avais un petit mot à dire, je comprends mieux pourquoi, parce que je suis questionné en me disant comment ça se fait qu'on a retiré le texte du fou, par quel hasard. Et donc là, je comprends mieux pourquoi Le Monde est un théâtre était une question prioritaire. Mais quand même, pour certains, le fou, c'est l'essentiel du théâtre de Shakespeare. Shakespeare écrit son théâtre, tout son théâtre, pour faire sortir un fou. Ou qu'il soit dans la tyrannie, ou peut-être dans la folie curieuse, enchanteresse, ou aussi dans la jalousie, toute la folie qui peut sortir. Alors je me suis dit, il est quand même important de laisser une place là, dans ces comédies, à ce fou, et nous, dans notre choix, on ne l'a pas fait. Et il y avait cette chose qui disait, un fou, j'ai rencontré un fou dans la forêt. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, je sais pourquoi ce n'était pas ici que ça doit être dit, parce que, en fait, le fou dans le théâtre de Shakespeare, le vrai fou, il est là. C'est ça. Si vous vous dites que c'est pas le fou qui parle, mais que c'est vraiment le public qui est fou de s'intéresser à Shakespeare, de vouloir acheter les œuvres complètes traduites par des bras. Hein? Un fou, mais j'ai rencontré un fou dans la forêt. Un fou enivré, bariolé. C'est le public. C'est évidemment le public. Au pitoyable monde. J'ai un petit peu abusé de votre temps.
Non, on a eu beaucoup de mal à trancher entre ces deux passages, effectivement. D'autant plus que ce passage sur le fou parle du temps aussi et de l'écoulement du temps. Et d'heure en heure, ainsi, on mûrit.
Ça sera pour les rappels,
ou ça sera pour la prochaine fois. Jacques, donc, c'est sa vision de l'humanité qui est extrêmement pessimiste et amère. Il est le seul, à la fin... Au moment où tous les couples vont se former, ils vont tous, comme dans les comédies qui se respectent, retourner dans une société qui s'est apaisée, où la tyrannie a disparu, puisque le duc usurpateur a été converti par un ermite, et il décide qu'il va aller les rejoindre et laisser tous ses animaux se précipiter dans l'arche, dit-il, en voyant défiler les nouveaux couples d'amoureux. Alors, il y a un autre personnage qui va se retrouver. Au fond, c'est un petit peu comme à la fin d'Astérix. Il faut toujours qu'il y ait un personnage qui soit isolé de la réjouissance collective. Alors, il y en a un qu'on a vu, justement, extrêmement joyeux dans les pièces historiques. C'est Falstaff, qui va se retrouver dans une comédie où il va être, lui, l'objet d'une purge sociale. Il avait été plein d'esprit, débordant d'humour et de fantaisie dans Henri IV. Et là, il est ruiné, il a été banni. Il va essayer de courtiser deux bourgeoises de Windsor pour leur argent. Et il va se faire rouler comme un enfant. On va le retrouver donc à minuit, alors qu'il a donné rendez-vous à ses femmes qu'il croit pouvoir duper.
Avec des bois de serre. Minuit a sonné à la cloche de Windsor. L'instant approche. Maintenant que les dieux au sang chaud m'assistent. Souviens-toi, Jupiter, tu fus taureau pour ton Europe. L'amour te mit des cornes. Ô puissant amour qui tantôt change une bête en homme, tantôt un homme en bête. Vous fûtes aussi, Jupiter, un signe pour l'amour de Léda. Ô omnipotent amour, ce dieu a failli prendre l'aspect du noix, première faute commise sous la forme d'une bête à cornes. Ô Jupiter, faute bestiale, et puis une deuxième commise sous l'aspect d'un volatile. Songes-y, Jupiter, la faute d'un volage. Quand les dieux ont le feu au derrière, que feront les pauvres hommes ? Moi, me voici l'un des cerfs de Windsor et le plus gras, je pense, de cette forêt. Rafraîchis pour moi ma saison d'urute, Jupiter. Sinon, qui pourra me reprocher de pisser partout ma graisse ? Qui vient là ? Oh, ma biche ! Oh, ma biche à la touffe noire ! Que le ciel me lâche une pluie de patates douces, un tonnerre de chansons d'amour sur l'air de Greensleeve, une grêle de bonbons parfumés qu'il neige des racines aphrodisiaques. Levez-vous, orage de la tentation, je veux me réfugier là.
Mais le cerf en rut va se retrouver en fait le bouc émissaire de cette petite société villageoise, bourgeoise.
Alors Falstaff a évidemment lui aussi du mal à s'imposer sur la scène française, mais néanmoins c'est un des personnages préférés des romantiques français. On y trouve une certaine postérité par exemple dans le Don César de Ruy Blas, qui festoie avec sa pastèque dans la bibliothèque à l'acte 4 de Ruy Blas. Néanmoins, on ne l'entend pas dire des choses comme ici, pisser, donc ça c'est pas possible. Et les amis de Hugo, Paul Meurice, qui a fondé la maison Victor Hugo, et Auguste Vacry, qui était le frère de son gendre, ont écrit un Falstaff ou le chevalier Jacques, pour lequel Gautier a écrit un prologue. Et ça, c'était en 1842. Et cette comédie, en trois actes et en vers, a été jouée à partir du 30 septembre 1842 pour une dizaine de représentations à l'Odéon. C'est pour ça que je vous en parle. Et c'est une comédie qui met ensemble les intrigues, enfin enchaîne des intrigues ou des passages d'Henri IV et des Joyeuses Commères. Alors, la pièce a été reçue quand même de manière un petit peu fraîche au début, et Gautier s'en désole. Voici ce que dit Gautier, donc, qui a écrit le prologue. « Maintenant, des gens difficiles trouvent cette gaieté grossière, ce type commun et grotesque, et demandent s'il était convenable d'exhumer et poli, d'offrir à nos spectateurs instruits et délicats, c'est-à-dire ceux de la scène de l'Odéon, qui, je vous rappelle, faisait partie des grandes scènes subventionnées, donc plutôt pour l'élite, des scènes qui faisaient les délices d'un public ignorant et sauvage. » C'est comme ça que la critique classique se représentait le public de Shakespeare. Et Gautier reprend. « Public ignorant et sauvage, qui était tout bonnement la cour d'Élisabeth et de la reine Anne, s'il vous plaît. » Et il se réjouit quelques jours plus tard que le public se soit quand même à peu près habitué au spectacle, notamment aux qualités de l'acteur Montrose, qui était tout maigrichon, mais qui jouait Falstaff avec une rotondité d'hippopotame.
Alors l'autre grand exclu des réjouissances finales, évidemment, c'est Shylock, le juif du marchand de Venise, qui, animé par la rancune, la haine des chrétiens, et notamment du chrétien qui lui a pris sa fille. Alors il y a cette scène qu'on ne vous lira pas aujourd'hui en pensant que vous la connaissez bien, où il rappelle que tout juif qu'il est et honni de la société vénitienne, il est un homme comme les autres. Mais ce passage célèbre se termine aussi par une déclaration de guerre. Puisque je suis un homme, je me vengerai. Et l'objet de sa vengeance, le marchand Antonio, n'a pas pu rembourser la somme qu'il devait à l'usurier Shylock. Et Shylock se prépare à prélever la livre de chair qu'il a réclamée au cas où sa dette ne serait pas remboursée. Et alors nous arrivons à la scène du tribunal où le duc, l'autorité, toujours, qui est chargé de protéger la loi de Venise, se prépare à prononcer la sentence, alors qu'on continue à plaider auprès de Shylock pour qu'il fasse preuve de clémence.
Quelle sentence puis-je craindre quand je ne fais aucun mal? Vous avez parmi vous de nombreux esclaves que, comme vos ânes, vos chiens et vos mulets, vous employez à d'abjectes et serviles besognes parce que vous les avez achetés. Irais-je vous dire, libérez-les, mariez-les à vos héritières? Pourquoi doivent-ils suer sous leur fardeau? Que leur lit soit aussi moelleux que le vôtre et leur palais flatté par les mêmes? Mais vous me répondrez, les esclaves sont à nous. Je vous réponds de même, cette livre de chair que j'exige de lui est chèrement achetée. Elle est à moi et je l'aurai. Si vous me la refusez, fi de vos lois, les décrets de Venise sont sans force. J'attends la sentence. L'aurai-je ? Répondez.
Alors si Le marchand de Venise est une pièce à problème, c'est pas seulement parce qu'il est difficile de répondre, en tout cas il faut bien argumenter à la question de savoir si Shakespeare est antisémite ou non, c'est aussi parce qu'elle pose des cas de conscience, politiques, moraux, des cas de justice à régler, et finalement tout ce procès final à la fin du marchand de Venise est vraiment extrêmement compliqué, puisque d'un côté comme de l'autre, les arguments qui sont avancés sont tous très discutables. D'un côté, on demande donc à Shylock de faire preuve de charité à l'égard de sa victime, donc d'amour de son prochain, mais comme il le fait dans cette tirade, il renvoie à ceux-là même qui lui demandent d'être charitable, il les renvoie à leur propre insensibilité totale dans l'esclavage qu'ils pratiquent. Ensuite, on lui demande d'admettre qu'il y a là un cas particulier d'humanité dont il devrait tenir compte. Il faudrait faire un cas particulier pour sa victime. Oui, mais, dit-il lui-même, toute dérogation est une remise en cause de la loi, est une remise en question de la loi, ce qui est vrai. Il l'exprime quand il dit ici, si vous me la refusez, fi de vos lois. Et du reste, il ne s'agit pas pour le juge ni pour Portia ensuite de remettre un tant soit peu la loi en question. Par une dérogation, ce serait l'affaiblir. Ensuite, on lui propose de faire preuve de clémence. Mais, dit-il, la clémence est réservée aux puissants, aux dieux, aux rois, ce qu'il n'est pas. Comment demander à un marginal de faire preuve de clémence ? Lui-même revendique l'application stricte de la loi. Oui, c'est un droit. C'est un droit qui lui est reconnu d'ailleurs par le duc et par Portia. Mais la loi peut être inique et un droit moral peut être supérieur à la loi. C'est en prenant conscience que Javert, dans Les Misérables, se suicide au bout du compte quand il comprend qu'il existe un droit supérieur à la loi et que Jean Valjean l'incarne. En fait, ce qui est vicié dans ce procès, c'est qu'au départ, en amont, le contrat qu'il a passé, le serment qui lui a été fait, était, dès le début, inique. Est inique un contrat dans lequel l'un des deux termes est la mort. À partir du moment où on s'engage à mourir si l'on n'accomplit pas quelque chose, alors le contrat lui-même est inique. C'est ce qui fait tout le problème de la fin d'Hernani. Victor Hugo, excusez-moi, mais moi je ramène tout à Victor Hugo, j'ai été faite comme ça. Où Hernani se suicide parce qu'il a fait le serment de se suicider à Don Ruy Gomez, et quand Donia Sol lui dit « mais ce serment ne vaut rien », elle a raison. Ce serment, au départ, ne valait rien parce qu'on avait promis de mourir. C'est ce qui fait aussi le cœur de ce merveilleux film de Charles Laughton, son seul unique film, je crois bien « La nuit du chasseur », où les enfants risquent de mourir pour un serment qu'ils ont fait au père. Hein.
Alors, le dernier acte dans lequel on n'entrera pas faute de temps va être un règlement de compte extrêmement complexe, extrêmement sophistiqué. Shylock n'est plus présent, mais il y a encore un acte entier où vont se régler les comptes du commerce du négoce et du commerce amoureux grâce, alors une fois de plus, à un déguisement, puisque Portia, qu'évoquait Florence, va arriver au tribunal déguisé en jeune juge plein de sagesse. Alors, la mort rôde dans les comédies, elle semble promise à Antonio, et elle est promise également dans une comédie sombre, elle aussi, Mesure pour mesure, où le duc, qui a laissé s'installer des mœurs de plus en plus libres dans sa ville, sent qu'il ne peut plus reprendre le contrôle et la maîtrise de cette situation et décide de s'absenter et de laisser l'autorité à un substitut qui est lui un puritain extrêmement austère, sévère, qui va être chargé de remettre de l'ordre dans les mœurs. Et le premier qui doit faire les frais de cette remise en ordre, c'est un jeune homme, Claudio, qui a fauté en ayant des relations sexuelles avec une jeune fille qu'il a engrossée, et il doit subir la peine que prononce Angelo, le substitut du duc, qui est la peine de mort, et il comprend le sort qui lui est promis dans le passage que va nous lire Jacques.
Oui, mais mourir et partir on ne sait vers où, être étendu figé dans le froid et pourrir, ce corps sensible, chaud, mobile, devenir une motte de terre glaise, et l'esprit infini baigné dans des flots de feu, ou séjourner dans la glace épaisse de la région frissonnante, être emprisonné dans les vents invisibles et emporté par leur violence infatigable tout autour. du monde suspendu dans le vide, ou bien être pire que les pires de ceux qu'une pensée sans loi et incertaine imagine hurlant, c'est trop horrible. La vie terrestre la plus accablante et la plus haïssable, que vieillesse, douleur, dénuement et prison peuvent infliger à la nature, est un paradis auprès de ce que nous redoutons de la mort.
Alors là, le spectateur, évidemment, ressent de la pitié à la fois pour Isabella et pour Claudio. Isabella qui est dans un dilemme terrible, sauver son frère
au prix de sa chasteté.
Et là encore, comme pour le marchand de Venise, le contrat, le pacte qui a été passé, enfin, c'est même pas un pacte, c'est le double bind, le double lien, la double contrainte dans laquelle elle se retrouve, est inique dès le départ, puisque cette fois-ci, c'est pas seulement un des deux termes du contrat qui comprend la mort, mais c'est pratiquement les deux termes du contrat, puisque c'est soit la mort du frère ou un viol sur elle.
Oui, j'aurais dû préciser que Angelo, le puritain, voyant la sœur de Claudio plaider pour son frère, pour la vie de son frère, lui dit d'accord, mais à condition que tu passes la nuit avec moi. Et c'est à ce moment-là que Isabella refuse avec indignation.
Et va voir son frère dans la prison en lui expliquant qu'elle s'apprête à le laisser mourir,
à
refuser ce qui lui a été demandé. Et là, on a vraiment une très très belle évocation de la peur de la mort avec ce système d'une imagination cosmique de la destruction du corps ou du voyage du corps vers l'au-delà. Avec cette hésitation, évidemment, puisqu'on ne sait rien de l'au-delà, donc Claudio imagine ce que ça pourrait être. Hésitation entre, d'un côté, un mouvement vers l'inconnu qui terrifie par sa démesure, et puis de l'autre, tout aussi terrifiant, la fixité de l'enterrement dans une terre froide. Et on a donc successivement le corps, le devenir du corps qui est envisagé, soit il part, on ne sait vers où, soit il reste étendu, figé dans le froid, et il pourrit. Quant à l'esprit, eh bien, soit il part dans des flots de feu, et là, donc, ce sont deux autres éléments, qui sont l'eau et le feu qui sont évoqués par opposition à la terre, soit il s'enfonce dans un mélange de terre et d'eau, qui est cette glace épaisse. Donc tous les éléments, les quatre éléments sont ici envisagés, tous aussi terrifiants, puisque l'air qui est envisagé lui aussi, avec les vents invisibles, qui emportent par leur violence tout autour d'un monde et qui nous laissent suspendus dans le vide, sont aussi terrifiants que l'eau, le feu ou la terre dans lesquels on peut aussi finir. On a là une vision horrifique de la mort, hein, qui n'est peut-être plus aussi répandue aujourd'hui qu'à l'époque, où l'iconographie baroque contribue beaucoup à cette représentation horrifique et où la croyance dans l'au-delà, dans l'enfer et le paradis est encore très répandue, alors qu'elle l'est peut-être moins dans notre époque déchristianisée. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est la réaction d'Isabella, qu'on ne vous a pas lu, mais elle réagit en considérant que Claudio, en ayant peur de la mort, est lâche. Et elle lui en fait reproche. « Oh, bête brute, oh, lâche, déloyale, créature sans honneur !» Le spectateur est libre de prendre parti pour elle et de trouver Claudio lâche, ou, au contraire, de partager la lâcheté de Claudio. J'avoue que de mon côté, je crains davantage ceux qui, comme le saint et martyr Polyeucte de Corneille, ou d'autres fanatiques d'aujourd'hui, est-ce religion, est-ce folie, ne craignent pas la mort.
Et pour elle, c'est la mort de son âme, c'est la damnation éternelle, et c'est Mais de toute façon, alors nous abordons maintenant, mais nous allons les traverser très rapidement parce que le temps passe, tout un groupe de pièces où justement la mort joue un rôle dramatique important. Alors c'est Problem Plays, dans plusieurs d'entre elles, beaucoup de bruit pour rien, tout est bien qui finit bien. L'héroïne qui est menacée, soupçonnée, injustement traitée, va franchir l'épreuve de la mort pour revenir après cette épreuve et trouver à son tour sa place, puisque ce sont quand même des comédies, donc le dénouement par toutes sortes de forces extraordinaires va permettre à chacun justement de trouver une forme de paix. Et alors, comme on n'a plus le temps que pour un seul extrait, Je pense qu'on va finir avec celui de Powerless, Parole, qui est aussi un peu un marginal, qui était un matamore qui a été démasqué, ridiculisé, et qui se retrouve à la fin de la pièce où il prononce ce qui va nous servir d'épilogue.
Pourtant je dis merci. Si mon cœur était fier, il se serait brisé, capitaine, je ne serais plus. Mais je mangerai, boirai, dormirai aussi bien que capitaine au monde. La pauvre chose que je suis suffira à me faire vivre. Celui qui se sait fanfaron, qu'il craigne mon exemple, car il vient un moment où tout fanfaron s'avère être un âne. Rouille, épée, calmez-vous, rougeux. Et toi, parole, paroles. Vis en sûreté dans la honte. On a fait de toi un pitre, prospère en pitrerie. Il y a place et moyens pour chacun tant qu'il vit.
Merci Jacques et merci à vous.